Les nuits de France Culture. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Il y a, et depuis bien longtemps, une poésie de l'amour dans le monde pré-islamique, puis dans le monde musulman, arabe et persan. Il y eut même ce qu'on appela dans l'Andalousie médiévale les fous d'amour. Et certaines histoires restèrent aussi célèbres que celles, par exemple, de Tristan et Iseult. Et n'oublions pas que les femmes, épouses et filles du prophète, eurent un rôle de toute première importance dans sa vie et dans la constitution de l'islam. Mais d'ailleurs, comment parler de l'islam ? La beauté de cette religion vient du fait que, n'ayant pas un dogme unique, ses interprétations sont multiples et d'une magnifique variété qui ouvre sur toute la gamme des possibles, de l'islam le plus strict à l'islam soufi, du sunnisme le plus ouvert aux diverses branches du chiisme. En 1992, l'Institut du monde arabe avait eu la belle idée d'organiser un colloque sur le thème « L'amour et l'Orient ». Titre repris dans une des émissions de La matinée des autres par Cécile Hamsi, qui avait eu l'idée de s'entretenir avec quelques-uns des participants à ce colloque.
L'amour et l'Orient, une matinée des autres proposée par Cécile Hamsi.
L'amour est un grand bien qui produit des grands maux. L'amoureux ne doit pas éviter ses maux. Dans l'amour, le vaillant, c'est celui qui, lorsque l'amour l'attaque, capitule. Rumi.
Alors ça, c'est d'Ibn Daoud.
C'est rapporté d'Ibn... Alors, Kitab Zahra est un livre passionnant, très très intéressant. C'est censé être le traité de l'amour platonique dans la tradition islamique. C'est la reprise de l'amour platonique. Et là, nous avons probablement une illustration de cet amour platonique, non ?
Alors allez-y, racontez-nous ça.
Vous voulez que je vous lise cette, ce passage-là que j'ai traduit donc, de Kitab Zahra, qui veut dire le livre de Vénus, en fait. Hein. Donc, la planète et la déesse de l'amour. Ibn Daoud étant mort en 910. Tout cela, c'est le milieu bagdadien, qui était un milieu d'une fécondité extraordinaire. Il y avait en même temps une vingtaine de génies qui étaient contemporains. C'est extraordinaire. On peut lire encore... avec joie et plaisir, plus de 1000 ans après. Lui, donc, ce n'était pas du tout un ésotérique. C'est assez curieux, très intéressant. Théologiquement, c'était un exotérique, c'était même un littéraliste, et en même temps, le théoricien de l'amour platonique. Donc là, nous trouvons, dans l'anecdote qu'on va vous raconter, au cœur, évidemment, le lieu sacré par excellence, donc la Mecque, au moment du pèlerinage, puisqu'on parle d'un des rites de ce pèlerinage, et la rencontre, donc Al-Asma'i dit « Pendant que je circumambulais autour du temple, une femme s'agrippa à la draperie de la Kaaba, donc une sorte d'adresse au Saint des Saints pour ce qui concerne l'islam, et déclama « Dieu n'accepte pas l'œuvre d'une amoureuse qui courrousse et délaisse son bien-aimé. La récompenserait-il pour le meurtre de son amant, lui qui sera rétribué pour une telle mort ? Pourquoi récitez-vous ces vers en pareil lieu, lui dis-je ? Ne t'occupe pas, Irakien, sinon je t'offenserai. » Alors lui, il lui répond, « Qu'est-ce que l'amour ? Tant s'en faut qu'il se révèle pour en rendre compte ou le percevoir. »
C'est elle qui répond.
C'est elle qui répond. « Il se dérobe au regard comme le feu dans le silex. Si tu frottes la pierre, il jaillit. Si tu la laisses, il reste scellé. »
Les poètes disent L'amour n'est qu'un flambeau enflammé au milieu des entrailles par les yeux d'antilope. Tel est l'amour, volé au ciel, à chaque instant déchiré sans voile, au premier pas renoncer à la vie, au dernier pas sans pied courir, disait Rumi, fondateur au XIIIe siècle de l'ordre des derviches tourneurs. Multiples et intenses ont été les expressions de l'amour chez les Arabes anciens. Charnel, platonique, hautement mystique, toutes les voies de la passion amoureuse ont été explorées et chantées dans cette langue, née dans le désert, nourrie par ses conditions de vie, vibrante des plus subtiles nuances. Orient enfui sous les décombres d'un empire émietté, engoncé dans l'oubli profond de ses sources primitives, paralysant les expressions, enfermant les corps dans un corset tissé de mille et une peurs. L'islam, multiple pourtant, offre aujourd'hui le visage unique de la pudibonderie et de l'intégrisme. L'islam raffiné se lit dans les grands textes de la littérature ancienne. Abdel Wahab, Medeb.
Puis El Skanda. Alors, encore en vers, deux vers, quatre hémistiches, traduits en quatre vers français. Humain, dupé, qu'aucun souci n'accable, tels les gazelles de la Mecque où nul ne chasse, ils confondent les mots tendres et l'obscénité, l'islam seul les détourne de la débauche. C'est vraiment très beau. Humain dupé, qu'aucun souci n'accable, c'est-à-dire qu'ils sont dans une insouciance totale, hein, parce qu'on est, on n'est jamais dupé en fait, mais enfin bon, hein, on joue à être dupé. Tels les gazelles de la Mecque où nul ne chasse, ça c'est pour une raison très très simple, parce que dans le territoire autour de la Mecque, il est interdit de chasser. Donc les gazelles prospèrent et sont dans un état, je veux dire, de... Les gazelles qui à la fois incarnent le féminin, la beauté, mais en même temps l'extrême fragilité, en même temps la tension extrême dans la poésie arabe, parce que... L'inquiétude, je dirais même, parce que très courue par les chasseurs, et en même temps très méfiante au moindre indice d'approche, la fuite, la peur. Et il y a de très beaux poèmes là-dessus, sur la gazelle qui tremble, sur la gazelle qui pleure, qui supplie le chasseur de ne pas la tuer, des choses comme ça. Donc c'est l'exemple même de la peur, de la frayeur et de la fragilité se trouve dans un état d'insouciance. C'est-à-dire, là, c'est une image qui illustre d'une manière merveilleuse humain dupé qu'aucun souci n'accable. Alors, l'islam seul les détourne de la débauche, là aussi, c'est très très intéressant, c'est le rapport loi-désir, quoi, en fait. Le rapport loi-désir, et que du fait que, ici, on est, en principe, en tous les cas, dans un tel lieu, face à des croyants... le désir est toujours là, il est toujours vif, et c'est la loi qui l'encadre et qui le limite.
Jamel Eddin Benchek.
Il y a à la fois le courant lyrique qui précède l'islam dans la poésie médiévale, donc pré-islamique, post-islamique, et qui se diversifie autour des thèmes amoureux. Mais il y a aussi une réflexion sur l'amour. Après avoir défini le religieux, le politique, l'éthique, on va en arriver tout naturellement à réfléchir sur la passion. Pas dans une espèce de filiation lointaine qui est de type aristotélicien. On va établir la rhétorique des passions. En même temps que se développent les courants d'amour mystique, les différents courants d'amour profane, que naît et définit son code de ce que l'on peut appeler la courtoisie arabo-islamique, le code du bien-aimé, et que se font jour les idées de sacrifice, de secret, de résistance au désir pour maintenir la passion intacte. On compte environ 35 termes désignant l'amour. Faire une comparaison d'un dictionnaire français, par exemple, et d'une des grandes sommes de lexicographie arabe est quelque chose de surprenant, parce qu'il y a réellement un investissement lexical énorme touchant à l'amour. Il y a donc 30 à 35 termes spécifiques, plus les expressions ou les conséquences de l'amour. Je veux parler, par exemple, de l'insomnie, de la maladie, de la folie. Mais il y a une trentaine de termes
qui
désignent la passion amoureuse.
La passion amoureuse. Alors, lesquels?
Il faudrait que je vous les cite
en
arabe.
Oui, en arabe, et puis on les traduira.
C'est très difficile à traduire. Je préférerais vous lire un texte pour vous montrer la... Vous voulez que nous le fassions?
Oui.
Bon, alors vous avez le tabel qui indique la souffrance, le tournoiement d'un vertige fatal, l'anéantissement. Vous avez le taïm qui rentre dans toute une isotopie de l'errance. Le taïm, c'est le fait d'être une sorte d'esclave adorateur de l'objet d'amour qui vous fuit et qui vous entraîne dans l'espace comme et dans l'errance comme les Hébreux ont erré hors de l'Égypte. Et on a pris ce mot qui désigne cette errance d'un peuple qui attend sa loi, comme l'amoureux errant attend que la voix retentisse pour lui redonner le chemin. Vous voyez, c'est un autre mot qui est le tille, et qui est très proche de celui dont je vous parlais, et qui désigne le même état d'égarement. Le djawa, c'est une brûlure qui vous fait comme une plaie dans la gorge. C'est une consomption. Le djawa, c'est la consomption d'amour. Et le mot, comme vous verrez que le cas est fréquent, désigne aussi l'encens du bois de Java consumé. Et l'odeur du benjoin, c'est de là que vient le benjoin. Le mot français vient du mot arabe louben djawa, qui est le bois de Java. Mm-hmm. Et ce parfum d'encens fait rappeler l'amour qui vous blesse à la gorge. Et il y a une constante résurgence dans le mot arabe de ces images qui sont très souvent prises à l'écologie du désert. On se perd dans les sables, dans le désert. Mais ça touche aussi aux fleurs, ça touche aussi aux parfums, nous venons de le voir. La hasala, c'est le soupir d'amour, mais en même temps, c'est le dépouillement. Le mot arabe contient l'image de la branche dépouillée, de l'écorce qui flotte sur l'eau, du guerrier sans cuirasse, parce que c'est le soupir du mutilé, de celui qui est tranché de lui-même et qui se montre nu dans son amour. Aucun voile ne le recouvre, il avoue. Son amour est tellement là que sa nudité en devient obscène. C'est l'obscène d'amour.
Le collier perdu de la colombe est un film qui se passerait au XIe siècle en Andalousie. et le titre est emprunté à un texte d'un écrivain andalou du Xe siècle qui s'appelle Ibn Hazm et qui a écrit un livre qui s'appelle Le collier de la colombe. Et ce livre traite du thème de l'amour, de l'amant, disons, ce thème de l'amour étant au cœur, en fait, de ce texte andalou. Et il m'a paru être l'image aussi d'une Andalousie perdue. Mais cette Andalousie, elle n'est pas uniquement l'Andalousie historique, mais une qualité de vie, une qualité d'être, un visage qu'on aimerait retrouver, non pas dans son cadre, je dirais, historique, mais dans son cadre humain, et qui a disparu. Et parce qu'en fait, ça recoupe une autre réflexion que je me suis faite en partant de l'idée dans un pays où 60 à 70% est en moins de 20 ans, de quoi doit rêver un pays comme ça ?
Lequel ?
Je pense le Maghreb en règle générale, le monde arabe en règle générale, parce que dans tous ces pays où il y a 70 ou presque moins de 20 ans, à quoi peut rêver un pays comme si c'était un individu qui rêve ? Et en assemblant tous les rêves de ces jeunes gens, à quoi ils peuvent rêver, j'ai répondu, ils peuvent rêver qu'à l'amour. Il serait insensé de rêver à autre chose. Et en ayant cette réponse simple, j'ai remarqué à la même occasion que c'est la chose la plus absente de ces sociétés, et celle qui est la plus mise sous surveillance. Aimer, c'est déjà être un voleur. C'est un vol de sentiments. Il n'y a pas d'espace pour ça. On est banni, en fait, on est banni en tant qu'être, quelque part. Et à cette occasion-là, disons, l'horreur m'a paru encore plus grande, puisque c'est des sociétés qui gèrent la peur.
Gère
et génère la peur. C'est une sorte de mise sous une couvercle comme ça qui enveloppe tout. Et du coup, c'est normal que l'amour n'ait pas de place.
Vous voulez entendre le soupir d'amour ?
Oui.
Je suis la branche dépouillée, l'oiseau dévêtu de sa plume, l'écorce flottant sous la digue. Quand le reflux des eaux me dénude, je suis le guerrier sans cuirasse, mon étalon rendu s'agenouille, mes yeux s'aveuglent à l'espace dans le tourment qui me dévaste. Mutilé, tranché de moi-même, je m'avilis, je soupire, plus un voile ne sait me couvrir. J'offre ma nudité obscène à qui ne comprendra que j'aime.
Ça passe par le sexe, ça passe par le corps. C'est là une des caractéristiques de l'islam. On fait l'amour, on baise au nom de Dieu. Ça, c'est évidemment dans le cadre légal. C'est toujours comme cela. Mais en même temps, le mot même nikah, qui signale le mariage, l'acte de mariage, dans lequel donc l'acte de chair a lieu, dans ce cadre-là, y a une ambivalence d'entrée de jeu de langue, parce que nikah veut dire aussi coït, tout court. Ça a les deux sens. Et disons que dans une interprétation moderne, dans une revisite, on pourrait privilégier le sens de coït.
Le hanin, c'est le gémissement de tendresse et qui contient le gémissement de Jésus sur la croix. Oui. Qui contient aussi le gémissement de l'arc qui vient de lancer sa flèche. Vous savez, lorsque la flèche part, l'arc vibre. Et ce bruit-là est interprété comme étant le gémissement de l'amoureux séparé de lui-même.
De lui-même.
Oui.
De sa bien-aimée.
De sa bien-aimée, bien entendu. C'est aussi la chamelle qui pleure pour son petit.
Mmh.
À propos de Majnoun et Layla, André Miquel.
Les poètes arabes ont chanté l'amour sous toutes les formes que nous pouvons imaginer, mais comme on peut s'y attendre, selon des accents, des formes, y compris celles même de la poésie, les formes techniques de la poésie, selon donc des accents ou des formes qui témoignent, le contraire serait étonnant, d'une inscription très forte dans une civilisation. Or là, avec Majnoun, nous avons vraiment, comme je le disais, une voix universelle. Et c'est une véritable révolution qui s'opère alors. C'est assez fascinant d'abord que ça se fasse à cette époque, la deuxième moitié de notre 7e siècle d'une part, et que ça se fasse dans un milieu, bon, le milieu du désert, plus précisément de la steppe, parce que ça n'est pas le désert absolu, mais enfin, d'un milieu auquel, a priori, on attribue peu, je dirais, de tendance ou, comment dire, de prédisposition à ce type de littérature. Or, cela s'est fait. Majnoun, d'ailleurs, n'est pas le seul de son type. Il y a, à cette époque, plusieurs poètes, plusieurs voix, car, finalement, nous ne sommes pas sûrs de la réalité de ce nom. Enfin, ce nom, c'est un surnom, le fou,
surnom, le
véritable
fou.
Nom est en crise, mais peu importe. Ce qu'il y a de sûr, en tout cas, c'est que dans l'Arabie du deuxième siècle, du septième siècle, un certain nombre de personnes, d'hommes, se sont mis à chanter un type d'amour. Et que sur tous, Majnoun est certainement le plus révolutionnaire. Pourquoi ? Parce que tous les autres, d'une façon ou d'une autre, se rattachent quand même au type de la poésie du temps. Ils ne libèrent pas tout à fait l'amour de certaines contraintes de la poésie, à savoir l'orgueil de la tribu, la critique de la tribu ennemie. Tout ça disparaît complètement dans le poème tel que le lance Majnoun. Alors, c'est d'une part une révolution, parce qu'il ne parle que d'amour, et l'autre révolution... Elle a un arrière-fond historique et sociologique. Elle est que pour la première fois à cette époque, on ose dire qui l'on aime et que le nom de la femme aimée n'est pas un prête-nom, comme on le faisait alors, mais le nom véritable, ou du moins supposé véritable, dans ce type de légende, de la femme aimée. En tout cas, il dit, pour la première fois, j'y insiste, j'aime une jeune fille qui s'appelle Layla et je vais la chanter. حرقتي قلبي يا نايا اللي حرق البكاء وشفيتي في عدي والحساد يا على بالك عاشق قلبي حبك زدتي لي بالجفا وعنادك زاد معاك الحق تعذبيني نشهد لك ول فيك وقلبي على الجمرك ربي رادا قلبي وصيت وعلمت مكراك يا 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 وحيلت قدا يا شو كلامي ما فادا
Le danef est un mot d'affliction. Je l'appelle moi une métaphore désolante. Parce que la métaphore est un transfert de sens, pas le métaphorein. Et l'homme qui aime essaie désespérément de se fondre dans l'objet aimé, d'être comme elle, donc il se compare à elle. C'est un peu l'androgyne de Platon, de devenir son image, d'être elle. Mais elle n'est jamais qu'une métaphore de lui. Elle s'éloigne de lui.
Dans le développement postérieur de la légende de Majnoun, et assez vite, les Persans d'abord, puis les Turcs et les Arabes aussi, ont vu dans la figure de cet amour impossible, la figure de l'amour mystique. En effet, bon, on peut s'aimer, bon, l'amour absolu n'existe pas ici, c'est dans l'au-delà que nous le découvrirons. Bien. Ce que je dis, moi, c'est que ce sont des développements qui se sont produits ensuite, mais que dans la légende de l'origine, telle qu'on la lit dans les textes arabes qui l'ont recueilli, c'est vraiment un amour, l'amour d'un homme et d'une femme, point à la ligne. Et quand on lit la poésie donc, mise sous le nom de Majnoun, on est quand même frappé du statut que Majnoun donne à Dieu. Finalement, Dieu est absent de cette poésie, sauf quand on le somme de donner la femme aimée, ou, ce qui est pire, quand on lui dit, je n'invente rien, je me réfère à des vers de Majnoun, « Seigneur, si tu ne me la donnes pas, mettons, je ne me repentirai pas, c'est-à-dire je serai un mauvais croyant. » C'est tout de même une attitude assez violente vis-à-vis de la loi religieuse. Et la légende, alors cette fois parallèlement à la poésie, le dit à sa manière, elle nous dit que le père de Majnoun l'a entraîné à la Mecque, au temple des musulmans, et lui a demandé de prier le Seigneur de lui rendre la raison. Et il y a cette scène assez belle où on voit Majnoun dans la force décuplée, nerveuse du fou, s'agrippant aux tentures de la Kaaba et montant jusqu'en haut et criant « Seigneur, rends-moi de plus en plus fou de Layla ». Et une voix dans la nuit qui répond « C'est ainsi qu'on insulte à la majesté de Dieu, et bien décidément, tu seras fou jusqu'à la fin de tes jours ». Il y a donc tout de même un dialogue entre... Je ne crois pas que Majnoun soit athée, pas du tout, ça n'est pas ce que je veux dire. Je veux dire qu'il y a là, à travers cette poésie, une façon, à travers l'amour, de poser les rapports entre l'homme et son Dieu, dont le moins effet qu'on en puisse dire, et qu'elle ne correspond pas à la norme de l'islam. Toutes les tribus dans lesquelles ce type d'amour scandaleux, parce qu'il se dit... avant même de pouvoir se dire, dirais-je. Toutes ces tribus, donc, sont des tribus marginalisées. Marginalisées d'abord par l'histoire, parce qu'elles sont restées en Arabie, alors que d'autres, plus puissantes, participaient au grand élan d'expansion de l'islam hors de la péninsule arabique. Et marginalisées aussi parce qu'elles sont à l'écart des grandes routes de commerce, là où passent les caravanes que l'on convoie, convoiement que l'on se fait payer, bien entendu. Alors, sans doute... dans ces tribus, l'idée d'une compensation, de rattraper sur le plan de la culture ce qu'on avait perdu sur le plan de la gloire ou sur celui de l'argent. On invente donc un type d'amour qui fait qu'on peut se positionner, comme on dirait aujourd'hui, par rapport à d'autres tribus.
Bon, nous sommes en fait, il y a une surenchère.
Oui, bien sûr. Nous sommes moins riches, nous sommes moins glorieux, mais en amour, c'est nous qui avons le mieux aimé. Et il y a tout un tas de textes qui disent, en effet, les controverses, où a-t-on le mieux aimé en Arabie à cette époque ? Réponse, eh bien, dans la tribu des Banu Amir, qui était celle de Majnoun, et dans quelques autres. Bien. Il faut se demander si on ne peut pas aller plus loin. Parce qu'après tout, pourquoi le thème de la folie ? Le fou est commode parce qu'il peut tout dire. On ne peut pas lui en vouloir. Bien. D'où l'idée que j'ai développée, à savoir que si les tribus ont inventé le personnage du fou, c'est peut-être parce qu'elles y avaient intérêt. Autrement dit, cela revient à quoi ? Ces tribus se trouvent, comme je l'ai dit, pauvres et marginalisées. Or, elles ont vécu sur le code des valeurs du désert. Un code de valeurs qui, entre-temps, avait été d'ailleurs sublimé par l'islam. Or, aurait tendance à dire, me semble-t-il, ces tribus, qu'est-ce que cela nous a rapporté de vivre dans l'honneur comme les autres ? Moins qu'aux autres. Et par conséquent, le thème de l'amour scandaleux, transmis par le fou, qui est un personnage commode parce qu'on ne peut pas le récuser, reviendrait à une sorte de protestation contre le code. Alors, sur ce point très précis, sur celui de l'amour, mais en fait, comme il engage la vie sociale des tribus à travers le mariage, cela reviendrait peut-être à dire, sous la forme d'un discours révolutionnaire de l'amour, cela reviendrait à dire que c'est peut-être le code qu'il faut remettre en question. Passant par la maison de Layla, je baise ce mur-ci, cet autre et celui-là. Est-ce d'aimer les murs que tu perds la raison ? Non pas les murs, mon cœur, les gens de la maison.
Celui-là est un mot de violence, le sadam, parce que il est dangereux. C'est en même temps le vent qui comble le puits. Enfin, le vent, les images fondamentales sont un vent qui comble la puits, puis une, une graine qui se perd dans la terre, comme la semence est désespérément perdue tant que l'objet d'amour n'est pas présent. Et c'est aussi l'image d'une source qui se déverse en vain. Et la source qui se déverse en vain signe l'inexistence de l'objet. C'est le sadam. Le shedjou, c'est la douleur, c'est le chagrin. La suffocation extrême, le mot d'angoisse. Sabwa, c'est un terme qui est lié à l'enfance. C'est une folie d'enfant. Parce que il est à la fois teinté d'innocence et d'absolu. L'amant est comme un enfant qui n'a plus aucune notion de ce qu'est le monde, de ses obligations, des réalités. Et on le traite comme un enfant. Et on a choisi ce mot-là pour désigner cet amour, ce sabwa, en même temps qu'il est nourri d'une image extrêmement belle. Vous savez qu'on a noté des attirances sexuelles chez les plantes. Et que par exemple, le palmier femelle se penche pour recevoir la semence du palmier mâle. Et les Arabes ont un mot. C'est encore l'environnement du désert. Ce sont des bédouins, ce sont des gens qui vivent dans le palmier. Et leurs images se nourrissent souvent au palmier. Or, il est attesté que le palmier mâle, le femelle, se penche vers le palmier mâle. Et que c'est le vent d'est qui féconde, qui transporte. Le vent est un vieil instrument de l'amour. Vous savez, dans l'île qui n'est peuplée que de femmes, l'île des Amazones, et qui est dans les mille et une nuits, mais qui est chez les géographes arabes, c'est cette île mystérieuse et légendaire qui ne serait peuplée que de guerrières. Eh bien, ces guerrières sont fécondées par le vent. Sont fécondées par le vent. C'est pour ça que c'est une île à la fois merveilleuse et toujours entourée de suspicions légitimes par les auteurs arabes. Parce que vraiment, c'est l'homme inutile, l'homme décrété inutile. Pas, et même le vent s'allie pour paraffer l'inutilité de l'homme. C'est lui qui transporte la semence. Écoutez, c'est insupportable.
Hachem Foda, on va parler du thème du fantôme dans la poésie amoureuse arabe. Est-ce que c'est un thème spécifique à cette poésie amoureuse ?
Oui. Alors, il me semble que, en effet, le thème du fantôme de l'aimé, de la visite du fantôme, est un thème spécifique à la poésie arabe. Il faut dire que ce thème, ou ce motif, est un motif récurrent que l'on retrouve tout au long de l'histoire de cette poésie. Alors, il s'agit apparemment d'un thème limité et facilement délimitable, limité pour plusieurs raisons. Limité d'abord parce qu'en général, il n'occupe dans le poème que très peu de vers, parfois du reste, il n'est évoqué qu'en un seul vers. Délimitable ensuite...
C'est vraiment une apparition.
C'est une apparition, il n'a pas le temps d'apparaître, qu'il disparaît. Délimitable ensuite parce que dans le corpus de la poésie médiévale dont nous disposons, on peut en suivre les premières traces dans la poésie anté-islamique. On peut en suivre le développement et les variations. Et on sait par exemple qu'il atteint son plein développement chez un poète du IXe siècle, un grand poète, Al-Bortoli, au point que les critiques ou anthologues médiévaux ont parlé du fantôme de Bortoli. Non qu'il s'agisse du fantôme du poète lui-même, mais du fantôme chez ce poète-là. Délimitable encore, ce thème l'est parce qu'il s'agit d'un événement, la visite de l'aimé, qui appartient à un mode spécifique ou déterminé de l'événement, celui qu'on qualifie de fantastique, de fictif ou d'onirique, pour le distinguer de l'événement réel, de la rencontre effective entre les amants. Il s'agit donc d'un événement qui advient à l'amant à tel moment de son sommeil, le plus souvent peu de temps après minuit, et parfois entre chien et loup, et un événement dans la durée fort limitée puisqu'il est généralement décrit comme éphémère et fugace. Cette rencontre fantastique s'inscrit en outre en un point déterminé de l'histoire des amants, puisqu'elle a pour fonction de combler, sur un mode que l'on peut appeler fantasmatique, illusoire, de combler donc l'abîme qui sépare les deux êtres qui s'aiment, par éloignement physique ou interdit, etc.
Qui sont séparés.
Qui sont séparés. Alors parmi ces thèmes, on trouve par exemple le retour de l'amant sur les lieux de l'aimé, c'est les lieux où il a rencontré l'aimé, et les pleurs sur le campement abandonné. Il y a aussi la scène de la séparation des amants lors du départ des caravanes. Il y a le motif par exemple de la gazelle qui paît sur les lieux du campement et qui rappelle la femme aimée, qui rappelle au poète la femme aimée. Il y a le thème de la vieillesse et de la canicie, des cheveux blancs, qui annonce la fin du temps de l'amour. Il y a le thème du censeur qui adresse des reproches à l'amant ou du surveillant qui veille à ce que les amants ne puissent se rencontrer ou se parler, etc. Ainsi, par exemple, quand tel poète, décrivant la fugacité d'une rencontre en principe réelle et effective avec l'aimé, nous dit « Je n'avais pas fini de l'enlacer pour l'accueillir, que déjà je commençais de l'enlacer pour lui dire adieu », on ne peut qu'être frappé par l'essence fantomatique d'une telle rencontre, soi-disant, et qui se veut réelle et effective.
Et qui, en fait, n'est peut-être qu'une rencontre poétique.
En tous les cas, elle est fantomatique.
Mais le fantôme, c'est le fantôme de la femme aimée qui répond quand même à l'appel comme fantôme.
Qui répond à l'appel. Très souvent, les poètes disent, n'est-ce pas, autant tu es avare, autant ton fantôme est généreux. Cette expérience du fantôme, n'est-ce pas, permet un plaisir pur, un amour absolu, un plaisir pur, une jouissance sans frein, n'est-ce pas ? C'est ce que dit, par exemple, Al-Sharif al-Murtada dans un ouvrage justement consacré, entièrement consacré au thème du fantôme de l'aimé dans la poésie médiévale, n'est-ce pas ? Il dit ceci, « Il s'agit d'une rencontre et d'une union qui se font à l'insu des surveillants, ruqaba, lesquels, n'en ayant pas seulement connaissance, ne peuvent y mettre aucun frein, elles sont soustraites à tout reproche et à l'abri de tout soupçon. Il s'agit en outre d'une jouissance et d'un plaisir qui ne sont soumis à aucun interdit. On ne peut les connaître sans péché, on peut les connaître pardon sans péché, ni avoir le moindre sentiment de faute ou de honte. » Et de cela, ce poète El Bortoli, dont je disais qu'il avait fait du thème du fantôme un des thèmes principaux de sa poésie, dit ceci. Et le piège du sommeil le livra à un amoureux qu'il eût pu, n'était le sommeil, guérir de ses peines.
Fethi Ben Slama.
Je me suis aperçu que dans l'histoire, dans l'imaginaire, dans les grands récits de l'islam, il y a au moins deux reprises où intervient une figure féminine qui apparaît comme essentielle, fondatrice, en ce sens qu'elle permet à l'homme qui a perdu sa raison de la retrouver. Non seulement de la retrouver, mais de soutenir l'œuvre de la raison.
Alors ces deux femmes...
Ces deux femmes sont d'une part Khadija, la femme du prophète de l'islam, Mahomet, donc son unique femme pendant très longtemps. Il est resté monogame jusqu'à la mort de Khadija.
Une figure maternelle, hein, puisqu'elle avait 20 ans de plus que lui.
Elle avait 20 ans plus que lui. Quand il a commencé à voir les premiers signes de la révélation, lui, il avait 40 ans, elle en avait 60. Et elle va d'abord écarter de lui le soupçon de la folie, car au début, il va traverser une période mélancolique, de mélancolie, où il va d'abord pensé qu'il est fou, qu'il délire, qu'il délirait, il avait des hallucinations, et il veut même mettre fin à ses jours. Et il se demandait si les visions qu'il était étaient des visions angéliques ou des visions sataniques. Et c'est elle qui va lui faire la démonstration que c'est angélique, ça veut dire que c'est de l'ordre de la parole divine.
Elle le prend sur ses genoux.
Oui, alors il y a une scène mémorable où elle le prend sur ses genoux comme un enfant et elle essaye de voir avec lui où se trouve, située dans l'espace, l'hallucination qu'il a. Il hallucine un être très très grand et il est sous l'emprise de cette hallucination et elle essaie de localiser l'hallucination dans l'espace et ensuite de vérifier si c'est un ange ou un démon. Et la vérification qu'elle trouve est la suivante. Après avoir mis le prophète tantôt sur un genou, tantôt sur l'autre, l'interroger à plusieurs reprises, comme elle était voilée, elle était voilée comme toutes les femmes nobles de l'époque pré-islamique, elles étaient voilées. Et au moment donc où elle dévoile ce dévoile, cet être de la vision, de l'hallucination, disparaît. Et à ce moment-là, elle dit ceci, « Si c'était un démon, il aurait continué à me regarder, et si c'est un ange, il aurait disparu, et effectivement, il a disparu. » Et donc, elle en déduit que c'est un ange, que la vision est une vision angélique. Oui. C'est-à-dire, en quelque sorte, que l'ange ne soutient pas la vue du visage de la femme. Alors, il y a deux interprétations possibles, où il y a quelque chose d'insoutenable dans le visage de la femme. Et cet insoutenable, on pourrait l'interpréter comme peut-être une figure du divin. Mais il y a une autre version qui fait du visage de la femme la séduction même, et dès lors, l'ange se dérobe à la séduction féminine. Mais je crois que c'est cette version-là qui est celle qui a cours, qui avait cours, moins à l'époque.
La deuxième
version.
Figure séductrice.
Figure de la séduction, devant laquelle l'ange se dérobe.
L'autre femme dont vous parlez, vous l'apparentez à cette femme Khadija,
oui.
C'est Scheherazade.
C'est Scheherazade.
Et en même temps, elle est dans une toute autre situation.
Elle est dans une toute autre situation, mais en même temps, il y a pas mal de points de comparaison, puisque, comme vous le savez, dans le récit des Mille et une Nuits, Shahriar, le roi, perd la raison. C'est-à-dire que c'est le pouvoir suprême, le pouvoir en tant que pouvoir, le pouvoir de la loi même, qui perd la raison. Et c'est une femme qui entreprend par un récit, un long récit, de lui rendre cette raison-là.
Et ce qui se passe au début, c'est ce prince qui est trahi par sa femme, c'est un prince, enfin, donc on est déjà dans l'impensable en Orient. Comment un prince qui part en voyage et qui revient d'une manière...
Nisage, événement.
Impromptu, découvre que sa femme, qui est une reine, le trompe, mais non pas avec, disons même un vizir, ce qui peut être pensable, mais avec des esclaves noirs. Donc on est vraiment dans quelque chose d'énorme, d'emblée. La reine est l'esclave, et le roi est trahi. Alors qu'est-ce qui se passe dans les têtes de tout le monde? Quel était donc, qu'est-ce qui se passait dans ces palais et qui n'est pas su, parce que c'est rare, il n'y a que les Mille et une Nuits qui parlent de ça. Et quelle est la leçon dont on parle? Alors, il y a évidemment, on montre qui que tu sois, et c'est l'islam à ce côté-là, c'est qui que tu sois, tu es un humain, tu es humble, et il faut être humble devant Dieu, mais humble aussi devant l'autre homme. Il y a une idée de fraternité, tu es mon frère, que je sois puissant et toi pauvre, tu es toujours mon frère, on dit toujours à l'autre, tu es mon frère. Et en Orient, on a conscience qu'on est peu de choses. Et là, je trouve que ça vous fait rire, oui. Mais je trouve qu'on a conscience qu'on est peu de choses. On n'a pas, peut-être ça manque, hein, cette espèce de croyance qu'on peut tout maîtriser. Ça les aiderait plus peut-être aujourd'hui à s'en sortir, puisqu'on est dans un monde où on veut tout maîtriser. Et le côté humble en Orient, qui fait que Dieu est toujours plus grand et plus puissant que vous, et qu'on est soumis à sa volonté, n'est pas un facteur qui favorise le modernisme, probablement, ni la haute technologie. On ne cherche pas tellement à maîtriser, on manque un peu de cette ambition. Et là, c'est tu es roi, vaniteux, puissant. Eh bien, ta femme peut te tromper avec qui? Avec l'esclave. Donc, quelque chose t'échappera toujours. Qu'est-ce que ta femme, reine, a pu aller chercher que tu ne peux pas lui donner, toi qui es si puissant? Eh bien, c'est quand même quelque chose de l'ordre du désir et du plaisir qui est un petit peu suggéré, là. Mmh. Et donc, de maintenir que l'homme doit garder une certaine blessure, quelque part en lui, savoir qu'il ne peut pas tout. Et je crois que là, la reine qui trompe son mari, mais c'est pas un mari, elle trompe le roi avec un esclave. Je crois qu'il n'y a pas de mots, j'ai pas besoin d'expliquer. Je crois qu'on ressent ça tout de suite, qu'il s'est passé quelque chose de grave là. Alors, et on comprend donc que lui est devant lui aussi l'impensable et tue cette femme et a envie de tuer toutes les autres femmes. Et Scheherazade va soigner cela chez lui, en lui montrant que cela, il doit l'accepter. Parce qu'elle va raconter des histoires. Elle va lui raconter des histoires d'autres hommes puissants, grands et petits, qui tous vont faire avec cette blessure, avec, je ne vais pas aller dire autre chose, aujourd'hui on dirait castration ou le manque, on laisse tout ça de côté. Mais il y a des correspondances psychiques, c'est-à-dire on sent qu'on percevait cela très bien. Et Scheherazade est là, alors quel est ce rôle qu'on donne à cette femme? C'est de soigner l'homme, probablement, et d'avoir ce pouvoir, et ce pouvoir par la parole. Et Scheherazade va parler au roi, et va parler de ces choses profondes et inconscientes qui le travaillent, qui le rendent malade, et elle va le guérir. Parce qu'à la fin, il s'agit de guérison, et on dira le roi est guéri.
Évidemment, Scheherazade est une figure totalement imaginaire, une invention. Mais c'est extraordinaire qu'on ait eu recours à une invention comme celle-là pour aider un roi devenu fou.
D'un côté, un homme en proie, enfin on peut dire au divin, au surnaturel. Mmh. Et de l'autre côté, un homme en proie à des choses beaucoup plus terrestres, qui sont d'ailleurs tout aussi surnaturelles d'une certaine façon, qui sont la jalousie.
Oui. La haine des femmes.
La haine des femmes, la tromperie.
Oui.
La mise à bas de son pouvoir et de sa souveraineté.
Oui.
Donc ce sont quand même deux situations complètement différentes.
Oui, elles sont différentes en ceci que dans un cas, nous sommes devant devant quelque chose qui est de l'ordre de la transcendance, et de l'autre cas, quelque chose qui est de l'ordre plutôt de l'immanence.
C'est toujours des voyageurs qui sont à un moment donné reçus, accueillis, souvent, et c'est étrange, dans des palais habités par des femmes évidemment les unes plus belles que les autres, et qui vont faire le bonheur de l'homme. Alors on l'accueille, le voyageur fatigué qui a besoin d'une petite halte, on le soigne, on fait l'amour avec lui, on lui donne tous les plaisirs, on lui donne à boire, on l'habille, on le lave, on fait l'amour avec lui, on lui offre tout et on lui interdit une chose. Je n'ai pas là de souvenir très précis, mais à la limite, on lui dira de ne pas, comme dans l'histoire de
Barbe Bleue,
il y a une porte qu'il ne faut pas franchir, une limite qu'il ne faut pas essayer de transgresser. La personne qui est reçue, le voyageur, fait sa halte, sa pause, se réjouit de la présence de ces femmes, passe là quelques jours, mais probablement, là on décrit quelque chose du caractère de l'homme, il a besoin, il ne peut pas rester dans cet état, évidemment, parce que c'est un espèce de paradis qu'on décrit, mais un paradis qui vous tue, au fond, parce que vous n'êtes plus rien, vous êtes offert à ces femmes, vous en usez, vous en abusez, mais vous êtes à leur merci. Aussi, pourquoi sortir de ce palais? En fait, vous êtes tenté d'y rester si vous obéissez à ces femmes, c'est-à-dire vous ne transgressez pas. Or, à un moment donné, le voyageur, mu par une curiosité plus forte que tout, le goût de l'aventure, va transgresser. Et c'est là qu'il va être jeté hors du paradis. C'est-à-dire que ces femmes vont ou lui crever un œil, ou lui enlever un doigt, ou lui couper une jambe, et le jeter dehors, hors de ce palais. Et là repart l'aventure de l'homme. Et il perd tout, mais il est enrichi d'une expérience qu'il va transmettre et raconter. Et avec elle, il va fasciner quelqu'un d'autre, un autre voyageur qu'il rencontre, puisqu'on est toujours en train de raconter une histoire à l'autre. Et on lui raconte pour le mettre en garde et pour lui dire, tu sais, là, j'ai tout eu, j'ai eu le paradis sur terre, et comme un idiot, je n'ai pas su m'en contenter, j'ai franchi la limite, et voilà où tu me vois réduit. Je suis de nouveau en haillons, j'ai tout perdu, et je recommence mon aventure humaine.
Ça aussi, c'est un texte étonnant. Celui de Boulkhasem. Et puis, je l'ai arrêté.
Oui, c'est extraordinaire.
Je l'ai arrêté à un moment très précis, parce que je ne peux pas vous dire ce qu'il y a par la suite.
C'est encore plus.
Ah, mais ça, ce sont deux pages de tout un roman. Un roman tout à fait étonnant, là.
Allez-y.
Qui nous vient aussi du XIe siècle, celui-là.
Oui.
Et du XIe siècle bagdadien. Et là, vraiment, j'arrête net. Avec une page la suite de cela, c'est une page de blasphème inouï, et là ça aurait été intéressant de la sortir, mais enfin bon, ça s'est pas fait, mais ça aurait montré là encore cette audace, cette liberté en somme, hein, alors qu'elle n'était pas dans le programme, liberté de parole de ces gens du 9e siècle, du 10e siècle, du 11e siècle, à l'époque de la grande souveraineté de l'islam, où, vous savez, quand une entité est souveraine, qu'elle a la puissance pour elle, qu'elle a la richesse pour elle, elle engendre aussi ceux qui contournent, ceux qui débordent et ceux qui créent. Le héros est quelqu'un qui arrive le soir, le crépuscule, l'appel, la prière du crépuscule est là, et il arrive dans un endroit désert, il demande l'hospitalité dans une sorte d'auberge. Et il est habillé en soufi, un homme de religion, avec son chapelet, avec sa bure de laine, son bâton de pèlerin, son écuelle de mendiant. Et quand il arrive, les gens sont furieux, ils ont dit qu'est-ce que c'est que ce rabat-joie, tout ça, parce qu'en fait, c'était une auberge qui était un rendez-vous de débauchés. Vous allez avoir une sorte d'orgie. D'orgie comme ça, envers les gens. Ils étaient très ennuyés, ils n'osaient pas le mettre dehors et ils ne savaient pas comment faire. Ce personnage si intempestif comme ça, qui arrive dans une assemblée de débauchés. Et petit à petit, au fur et à mesure, au début il commence par un discours profondément religieux, des préceptes moraux, des sermons, des choses comme ça. Et au fur et à mesure qu'il parle, et les gens lui posent des questions autour de lui, il devient un peu le centre, il se dépouille de ses divers attributs religieux. Et le discours légèrement glisse du religieux jusqu'à carrément le pornographique par la suite, et le blasphème. Et alors, le texte qui est traduit ici, c'est une sorte de rhétorique du sermon religieux, mais qui, comme vous l'avez lu, prône justement le culte de la jouissance. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. Suivez mes ordres, détournez-vous de ce que j'interdis, obéissez-moi, mes conseils sont pour moi et ma compagnie. Qui parmi vous a de l'argent ne doit pas être prévoyant, qui ne laisse rien à des héritiers qui le béniraient, qui d'entre vous est pauvre, qui l'emprunte, qui l'achète à crédit sans se préoccuper des créanciers et des huissiers. Soyez raffinés dans la consommation des mets et des boissons enivrantes, dans l'écoute des belles interprètes, dans la baisse des chanteurs et des danseurs. Baisez debout, priez assis, baisez des femmes libres et ne vous abstenez pas des esclaves. Baisez en secret et au-dessus de tous, baisez l'esclave et la franchie, la débauchée déclarée et la discrète. Baisez tant que vos sexes se dressent, cela ne durera pas. Baisez les petites et les grandes, les étroites et les larges, baisez les vierges aux formes fermes et rondes, ainsi que les vieilles décrépites, baiser les beaux garçons et les vieillards hideux. Une émouvante nouvelle nous est parvenue, et ainsi de suite.
Les talons, on n'a aucune exigence.
Voilà. Donc tout cela sur le mode du sermon.
Ouais.
Hein? Donc c'est ça l'idée. Et il se découvre donc le plus débauché parmi les débauchés. Et alors là, il y a toute une série. Alors, ce n'est pas une assemblée, j'ai parlé d'orgie tout à l'heure, c'est un peu faux, orgie verbale. Ce n'est pas une assemblée qui passe à l'acte. Ce ne sont que des discours. C'est des gens qui se rencontrent, c'est une sorte de banquet autour d'une table, des hommes, que des hommes, et c'est des joutes. C'est une série de joutes à qui blasphème le plus, à qui décrit de la manière la plus folle les actes les plus insensés, d'amour surtout, de débauche et ainsi de suite. Et à la fin, tout à la fin donc de ce récit, il commence à y avoir des joutes entre les personnes qui sont là, chacun représentant sa ville ou son quartier. Ça devient presque une émulation, un concours entre ville et quartier, qui est le plus éloquent dans ce discours de l'excès et de la débauche, tout en buvant en même temps. Et à la fin de la nuit, quand l'appel de la prière de l'aube donc s'annonce et que le jour point, tout le monde est fatigué, crevé, tout le monde est ivre-mort, affalé, qui dort, qui ne pouvant plus bouger, perclus, tout ça. Et lui, petit à petit, il reprend ses attributs religieux, le chapelet, la bure, le bâton, l'écuelle. Il reprend petit à petit le sermon religieux. Il se met donc, il finit par une sorte de bénédiction de l'assemblée, profondément religieuse, dans le discours le plus religieux, et il sort en plein jour en mendiant comme il est entré.
Ah voilà le ishq,
oui.
Le mot imprononçable.
Alors lisez.
Je voulais que je vous lise.
Ah, oui.
Je suis vocable imprononçable. Le païen refoulé du verbe. Le mot orphelin de sa langue au goût saumâtre dans la bouche. Celui qu'on recouvre d'un voile, qu'on n'y voit ni forme ni sens. Sa honte enfouie dans le silence. Lisez la seconde et on lit strophe à strophe.
Je suis la plante volubile, la brionne à baies de brasier. J'unis, j'ajuste, j'entrelace, j'accouple tenons et mortaises. Fixant le fer à sa lance, je chante le psaume animal, l'obsession et la souffrance de ce fou des chaleurs femelles.
Je nais à l'aube libidinale qui force l'amant à sa perte, répand le malheur en ses veines et corrompant son intellect le pousse au suicide ou au meurtre dès lors qu'un soleil hivernal le plonge en mélancolie verte.
Mais je frémis aussi de flammes pures, me tends vers un bonheur suprême, me sublime en désir absolu, fuyant tout apaisement pour me porter aux confins extrêmes du sacrifice et dédier ma mort à qui m'intime de l'aimer.
C'est-à-dire à Dieu.
Allah,
lorsqu'on fait des recherches très approfondies d'étymologie, on s'aperçoit qu'effectivement, au début, c'était un terme de menuiserie, tenon et mortaise, ou d'armement, puisque c'était le fait de joindre le bois de la lance au fer du fer de lance. Ça désigne aussi une greffe. Et c'est devenu le. Il fait partie des sept termes qui, en arabe ancien, désignent le rut du mâle ou la chaleur de la femelle. Et c'est un mot absent du Coran, un mot païen absent du Coran, pas un vocable imprononçable. Et je me suis demandé pourquoi. Et pourquoi il ne figurait que dans un seul dit du prophète, vous savez, parmi les dits prophétiques,
le hadith,
qui est très controversé, parce que les théologiens sunnites disent que cela n'existe pas. Ce hadith dit « qui aime de ishq et meurt en témoin de la foi ». Or, c'est une horreur de dire cela, puisque on fait de l'amour un témoin. Or, la mort ne peut témoigner que de la foi, et non pas de l'amour. Mmh. Pas de la foi en Dieu, non pas de l'amour. Et par conséquent, on a dit que c'était un faux. Mais les soufis, les mystiques l'ont tout à fait remis à l'honneur. Et alors, ils ont repris ce terme pour décrire la fusion de l'âme allégée et purée dans l'essence divine. Ouais. Hein? C'est-à-dire, si vous voulez, l'union suprême. Ouais. La consommation totale. Les grands mystiques comme Ibn Arabi, comme Ibn Farid, comme Al-Hallaj, ont tous réutilisé ces termes et leur poème palpite de ce que la mémoire du mot garde ces images premières qui sont de chair. Et c'est ce que les théologiens n'admettent pas. Il y a une sexualité qui est constamment présente. Et vous savez, il y a un conte des mille et une nuits où les gens sont assemblés et on sait que le poète qui va dire son poème est violemment amoureux d'une favorite du calife, ce qui est dangereux, c'est extrêmement dangereux. Et donc il ne va pas dire un mot, il va simplement décrire une fleur qui est là, sur la table où sont assemblés les convives, et il se met à décrire la fleur. Et au bout d'un moment, on s'aperçoit que ce n'est plus du tout la fleur qu'il décrit, mais le corps de la femme. Et tout se met à fonctionner, et les invités comprennent, et le conte s'achève sur le silence de convenance. Mais sous ce conte, sous le poème, il y a un conte d'une sexualité, mais vraiment violente. Mmh. Vraiment violente, puisque la description du cœur de la fleur est tout à fait la description du sexe féminin.
Et bien justement, à propos de plantes et de fleurs, ce mot...
Oui, c'est la brionne, parce que la brionne est une plante volubile, c'est-à-dire qu'elle s'entoure autour des autres, qu'elle les étreint. Et ils en ont pris cette image des deux corps enlacés l'un à l'autre, qui se cherchent, qui s'étreignent.
Montre ta face, car je désire le verger et la roseraie. Ouvre tes lèvres, car je désire sucre en abondance. Ô soleil, fais surgir ta face du voile de nuages, car je désire le radieux éclat de ce visage. Rumi.
Ce qu'il convient de retenir, c'est que l'esprit, le stade suprême, je dirais, de la vision, de l'épiphanie, de la réalisation mystique, qui est celle de la rencontre, la suscité, l'autre, absent, en suscité la présence, tout cela passe par le frottement des corps. Tout cela passe donc dans la rencontre entre l'homme et la femme. Parce que, en fait, la thèse, c'est quoi aussi ? C'est une des thèses assez étonnantes dans laquelle il y a conjonction avec toutes les mystiques, en tous les cas avec la mystique chrétienne, c'est que le mystique est la femme de Dieu, en fait. C'est ça l'idée. Et donc, être une, se retrouver dans cet état, l'expression de Ibn Arabi, de féminité pure. Mais en même temps, cela n'implique pas le fait que cela doit passer par le corps. C'est l'interprétation a posteriori qui devient centrale, beaucoup plus que l'acte lui-même. Ce que je voulais dire par là aussi, c'est que cette insistance sur le principe de jouissance, qui serait un peu une des caractéristiques de l'islam, en tous les cas, qui aura fait la réputation de l'islam et une des raisons de la fascination de l'islam auprès des Européens. Tout cela, cette réputation, ce principe de jouissance en islam, qui a fait la réputation de l'islam, qui a fait probablement aussi la séduction de l'islam, on le retrouve circulant chez les poètes romantiques européens, chez des philosophes comme Nietzsche, tous ceux qui ont essayé de penser, dirions-nous, la réduction européenne, enfin d'une Europe enracinée dans le christianisme, opposaient très souvent l'islam à cela. Et au contemporain, dans notre époque, il y a une inversion spectaculaire, tout à fait étonnante.
C'est-à-dire ?
Ben, je pense qu'avec tout ce qui se passe dans les pays musulmans, avec cet intégrisme qui hante, on se retrouve face à une cité pudibonde, profondément marquée par une morale et par une, comment dire, par une pudibonderie. Il n'y a pas un autre terme, je ne vois pas. Un autre terme qui fait que actuellement vous diriez à n'importe qui comme ça dans la rue, hein, moins dans le sens commun, moins dans l'idée qu'on a de l'islam, c'est que ce sont des sociétés profondément puritaines. Ce sont des sociétés. Il y a une inversion étonnante de l'image et je crois que les vous parleriez d'un désir d'aller vivre. Je ne pense pas que de jeunes Européens désireraient aller vivre en quelques pays islamiques, vu l'inversion spectaculaire qu'il y a eu d'image.
Voilà, ce sont des mots ouverts et vous savez que l'amant en arabe se dit El Habib, qui est un mot masculin. Et on y met ce qu'on veut. On peut très bien désigner son amante par le masculin El Habib, l'amant. Hein? L'aimé, l'ami. Par conséquent, non, tout amour peut y trouver son compte. Ce terme, ça n'est pas. C'est le contexte en général qui permet de voir s'il, comme si majoritairement, s'il s'agit d'un amour hétérosexuel, ce qui est la majorité des poèmes qui sont donnés. Mais et notamment à partir du 9e siècle et dans les milieux raffinés de Bagdad, l'amour homosexuel s'est développé considérablement. C'est même lui qui a fixé le code du bien-aimé, le code de la chasteté, parce que l'un des mots de l'amour arabe, c'est la chasteté, pas la continence, hein, je dis bien la chasteté, parce que ça vient dans ce, ça se situe dans cette perspective du désir suspendu, hein, savoir contenir son désir et mourir d'amour pour lui. Il ne faut pas revenir de là-bas. Je vous rappelle ce que disait Éluard au début de l'un de ses poèmes. Deux amants qui s'aiment devraient s'assassiner dans la première minute de leur amour. Ne pas revenir de là-bas, c'est-à-dire vivre éternellement dans un désir intact. Il y a là de ces absolus qui ont conduit, par exemple Ibn Daoud, qui est un des théoriciens de l'amour au 9e siècle, à la mort. On se consume d'aimer. Et on n'assouvit pas son désir pour en mourir.
Le masque d'amour chez Al-Washa, mort en 936, auteur d'une anthologie illustrée de l'éloquence, et du Kitab al-Muwasha ou Livre du Brocard, un code de la passion réservé à l'élite, par Abdallah Sheikh Moussa. On l'appelait le brocheur.
Oui.
C'est-à-dire le maître S rhétorique, celui qui sait si bien ornementer son texte ou son discours. Et alors, Washa signifie aussi en arabe calomniateur et celui qui brode.
C'est cela.
Alors ça le définit assez bien quand même, non ?
Oui, tout à fait. En effet, c'est cette image-là qu'il laisse dans la tradition arabe, en tout cas dans les ouvrages biographiques. Washa est présenté comme un maître S rhétorique. C'est un spécialiste de la rhétorique. Il a laissé d'ailleurs un petit ouvrage, un très petit opuscule, qui est une sorte d'anthologie de dits un peu fleurs de rhétorique, quoi, de belles maximes, de belles expressions. Et donc la question se pose, est-ce que ce Washa est un surnom amélioratif ? Au contraire, il est péjoratif, s'agit-il ? Est-ce qu'il ne s'agit pas de quelqu'un qui, en effet, a tendance à broder, a tendance à attribuer à des personnages, historiques ou pas, des faits qu'ils n'ont pas vécu ou des sentiments qu'ils n'ont jamais eus.
Donc lui, il exerçait le métier de précepteur à Bagdad.
Il est dit à la fois grammairien, rhétoricien, ou en tout cas spécialiste de rhétorique, d'adab, de belles lettres, mm-hmm. plus exactement. Et on dit de lui qu'il a été pendant quelque temps, en effet, le maître d'une esclave qui elle-même était
la concubine
esclave de la concubine d'un calife.
Ça n'est pas rien. Ce qui lui aurait permis de fréquenter les milieux de la cour et de connaître directement les cercles des raffinés.
Très certainement. Très certainement, il a fréquenté la cour, il a fréquenté tous les cercles aussi bien à l'intérieur de la cour que les cercles appartenant à des membres de l'élite bagdadienne de l'époque et qui faisait partie de l'entourage du prince ou du calife.
Donc on était sous les Abbassides.
On était sous les Abbassides, c'est la fin du 9e siècle. Donc à un moment où quand même les Abbassides commencent à, disons, avoir quelques ennuis. La situation n'est plus aussi stable qu'elle l'était auparavant. Bagdad est souvent le théâtre de troubles, d'agitation, d'affrontements. Il y a même une certaine valse de, je dirais, des califes. Ce n'est pas véritablement la grande période de Bagdad où régnait le calme, la stabilité.
Al-Washa, donc, vous dites qu'il approche les cercles des raffinés de la cour, mais ces raffinés sont presque des raffinés de naissance. Lui, ce code qu'il met au point s'adresse à qui ? À des gens, disons, de sa condition ou de sa catégorie sociale ?
C'est difficile à dire, parce qu'on ne sait absolument pas de quelle origine il est. Mmh. On ne sait pas si c'est quelqu'un qui a réussi, à force de travail, je dirais par son propre mérite, à accéder à ces cénacles en vue, ou s'il s'agissait dès l'origine de quelqu'un appartenant à la High Society. On n'en sait absolument rien. Son texte se dit, ou dit s'adresser à toute personne de bonne volonté, toute personne prête à se plier à la discipline qu'il propose dans cet ouvrage. Mais quand on regarde de très près, on se rend compte qu'il n'y a de distinction que pour des gens déjà en place, pour des hommes riches. Je dis bien des hommes, les femmes sont peut-être pas aussi capables, aussi aptes à devenir des raffinées. Donc il y a une forme de sélection par l'argent, sinon par le rang. Un raffiné pauvre reste un pauvre, un raffiné riche sera un raffiné.
D'accord.
Parce que nous sommes dans un système avec Washa, en effet, qui codifie les relations amoureuses, qui codifie les rapports qui doivent exister entre un amant et sa bien-aimée. Et ce système suppose des présents, des cadeaux, suppose un certain type de correspondance, non pas sur du papier ordinaire, mais sur un papier qui devait être précieux et coûter extrêmement cher. Tout cela suppose donc de la dépense, au sens propre du terme. Et un pauvre ne peut pas assumer cette dépense, donc ne peut que déplaire, en tout cas démériter de ce que suppose la distinction ou le raffinement. Il n'y a pas de passion sans l'élément financier, si je puis dire.
Par contre, si le pauvre ne peut pas objectivement connaître la passion, l'homme riche, lui, se couvrira d'opprobre s'il ne s'y livre pas corps et âme. Donc, dans ce code de raffinement, il y a vraiment l'obligation de se livrer à l'amour, à la passion, à la dépense.
Parfaitement. Il faut s'y livrer, peut-être pas tellement pour la passion elle-même, mais au moins pour montrer aux autres qu'on est un homme à la fois sensible, généreux. C'est cela. Il dit bien que la passion rend l'avare généreux, le lâche courageux, etc., etc. Si je suis un homme riche, si je suis un homme fortuné, l'amour constituera pour moi le moyen de montrer ma générosité, de faire presque étalage, en tout cas faire montre de ma générosité, parce que j'aurai à entretenir ou une esclave chanteuse ou une bien-aimée si elle est de naissance libre, mais la chose est beaucoup plus difficile, étant donné que les femmes libres étaient recluses et qu'il était extrêmement difficile d'y accéder. Or, qu'est-ce qu'entretenir cette relation? C'est en effet la combler de cadeaux, de présents. Lui offrir les objets les plus précieux, les parfums les plus rares, et soit à elle directement, soit à son propriétaire, à son maître. Il n'est à aucun moment question de relation, à aucun moment question de contact, encore moins de, je dirais, passage à l'acte, d'union, dans tous les sens du terme, entre l'amant et la bien-aimée. Il s'agit d'un mouvement vers quelqu'un d'extérieur à vous-même, une femme, mais après tout ça pourrait être un fantôme, ça pourrait être une image, ça pourrait être n'importe quel être chimérique. Et ce qui est fondamental, ce qui est essentiel, c'est qu'il y ait cette tension, c'est qu'il y ait ce mouvement, cette sortie de soi pour aller vers l'autre, mais l'autre qui n'a, au sens propre, n'a pas de beaucoup de réalité, qui en tout cas, ce n'est pas nécessairement un être de chair et de sang qui vous inspire en effet de la passion, mais en même temps du désir. Il s'agit donc d'une sorte de sentiment un peu pour le spectacle, c'est quelque chose qui doit se donner à voir, aussi bien sur le visage de celui qui éprouve cette passion que sur son corps. Il faut être émacié, il faut être maigre, il faut avoir l'air de languir et de souffrir.
Les mains décharnées.
Voilà, les mains décharnées.
Si on est obèse, on est exclu.
Hagard, exactement. Cela est dit et répété à plusieurs reprises.
Hagard, par définition.
Par définition. Préoccupé, complètement absent. Donc préoccupé par l'image de la bien-aimée ou par le sentiment qu'on lui porte, mais à aucun moment il n'est question véritablement de d'amour réel
partagé,
ou de sentiment partagé, oui. En tout cas de volonté, de désir, de voir son amour payé de retour du tout. Alors, ce qui est important, c'est en effet de faire montre. La passion n'est plus qu'une monstration. Elle se donne à voir sur le corps du patient, si je puis dire, mais elle se donne aussi à voir dans ses poèmes.
Là, il y avait deux exemples de ce genre de poésie. Alors l'une qui était « Elle lui offrit une prune pour lui dire qu'en venant, il pénétrerait. Enhardi par l'heureux présage, il alla sans délai et put à loisir entrer et sortir. » C'est très fin, ça. Extrêmement fin.
Mais c'est quelque chose que Ouachet dit rejeter.
Oui.
Il dit...
Ce qu'il ne faut pas faire.
Les hommes raffinés
ne font pas ça.
Évitent habituellement d'employer tel ou tel terme. Évitent d'offrir à leurs bien-aimés ou à leurs amis, à leurs compagnons, tel ou tel type de fruit, tel ou tel type de produit. Pourquoi ? Parce qu'il y a là une allusion trop crue à quelque chose qui a à voir avec la sexualité. Et l'exemple qu'il donne en effet, c'est ce vers, mais pas seulement, il y a d'autres vers qui sont donnés, d'autres expressions qui sont données, qui sont aussi... disons directe, sinon aussi scabreuse que ce vers-là. Et donc la question se pose, pourquoi éprouve-t-il le besoin, non seulement d'en parler, mais encore de citer à l'appui des vers extrêmement graveleux?
Oui, pourquoi?
Et au moins un passage où il dit en effet, le véritable tarif ne doit surtout pas penser à l'union, ne doit surtout pas penser à la relation sexuelle. Et il cite un certain nombre d'exemples. Deux personnages qui manquent de distinction, manquent de raffinement, qui ne sont surtout pas des dhurafa. Or, son vocabulaire lui-même montre à l'évidence que Washa, comme tous les Dhurafa, en tout cas les personnages dits Dhurafa qu'il cite, passent leur temps à penser à cela et rien qu'à cela. C'est une littérature qu'on retrouve encore au 18e, 19e siècle, au moins au début du 19e siècle. C'est une littérature dont le but premier, si je puis dire, c'est la formation de l'individu sur, d'un point de vue éthique ou moral, mais pas seulement. C'est à la fois lui donner une culture, donc je ne sais pas connaître ses belles lettres, mais en même temps lui proposer un certain nombre de comportements, un certain nombre de conduites, et il lui est demandé de d'imiter les exemples qui sont présentés et représentés dans cette littérature. Il est vrai qu'à partir d'un certain moment, on a l'impression que on tombe plus dans la répétition et dans la compilation que dans la, disons, l'invention, en tout cas la recomposition, parce que là, je ne sais pas vraiment si on peut parler de d'invention, mais plutôt de recomposition, et toujours dans le déjà dit. C'est la tradition qui dit, même si on prête tout et n'importe quoi à cette tradition, cette littérature, non, le dure et perdure pendant des siècles et des siècles, elle ne disparaît pas. Utukini.
رمانة جميلة لجميلتي ثمرة الجنة هي لك ما أجملها السلام.
Pourquoi cet oubli? Pourquoi cette fermeture?
Disons, c'est pas moi là. C'est l'espace chez nous, il est pris dans une nacelle de terreur depuis plusieurs générations. Que la terreur de colonisateur et la terreur qui a suivi. Et cette terreur-là ne permet pas à l'individu d'avoir même une toute petite place. Et si l'individu est nié, il n'y a pas grand-chose qui naît. Et cette germination qui est dans les noms de l'amour, parce que le hub aussi a dans ces termes-là le mot germination, et germination, il n'y a pas de germination, il n'y a pas de création sans germination. Cette création et germination sont souvent écartées, mais écartées de plus en plus, mais même pas dans la marche, parce qu'il n'y a pas de marche. Tout est...
Marge.
Oui, il n'y a pas de marge. Et c'est ce problème aussi de la marge et de la terreur. Je ne peux pas vous dire plus parce que ça serait un peu long, mais il y a une sorte de terreur qui fait que c'est presque une survie au quotidien qui l'emporte sur tout désir, donc sur tout projet. Et c'est ce rapport-là qui paraît absolument anodin ou... peut le rendre social, mais qui est au fait au cœur de l'âme. Et que sans cette absence de féminité, qui irriguait et nos jardins et nos mosquées et toutes les formes d'expression qui ont un peu donné un éclat au quotidien dans cette civilisation, une beauté qui n'était pas une esthétique d'encadrement, mais une palpitation des êtres, et tout cela sans féminité, donc sans âme.
Les mots vivent de nous, nous vivons d'eux, les mots ont une mémoire qui s'amplifie et au fur et à mesure qu'on quitte ces déserts, qu'on arrive au grand fleuve, on substitue des images. Et cela devient, si vous voulez, moins austère, moins âpre que dans les sables, mais plus vivant, plus verdoyant. Il y a une vie des corps, une vie florale, une vie saisonnière. Une vie fluviale des corps. Il y a des flux, des reflux. La mer est là aussi. Les Arabes découvrent la mer et vont s'embarquer, et vont découvrir le monde. Et ils découvrent le corps aimé comme ils découvrent le monde. Ils en établissent la carte, les flux, les palpitations, les vibrations. Les Arabes ont beaucoup aimé, beaucoup cru. Ce qui fait leur déséquilibre actuellement, Je crois, enfin, c'est le sens que je donne aux choses, parce qu'il cesse d'aimer pour faire mine de croire uniquement. Or, ils n'ont jamais cru sans aimer. Et le jour où les Arabes n'aimeront plus, ils ne croiront plus non plus.
La matinée des autres, un voyage dans l'Orient et l'amour, avec Jamel Eddine Benchek, André Miquel, Hachem Fodda, Abdallah Sheikh Moussa, Fethi Benslama, Abdelwahab Medeb, Nisa Chevènement et Nasser Kemir, réalisateur du film Le collier perdu de la colombe. Un colloque sur ce thème de l'amour et l'Orient a été organisé à l'Institut du Monde Arabe en octobre 1992 et a donné lieu à un numéro de la revue Intersigne. Les poèmes de Rumi étaient lus par Jacqueline Taous. L'amour et l'Orient par Cécile Amsi. Réalisation Agnès Warnier, Jean Fèvre, Jacques Taroni.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 15 mars 1994. Vous pouvez la télécharger pendant un an et la réécouter pendant 3 ans sur le site franceculture.fr à la page des nuits.
Il est des mots qu'on peut penser, mais à pas dire en société. Moi, je me fous de la société et de sa prétendue moralité. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. J'aimerais simplement faire l'amour avec toi. Oh, 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 oh. Bien sûr, moi, je pourrais te dire que je ne vis que par ton sourire, que tes yeux sont de tous les yeux les plus bleus. Avec toi, moi je veux faire l'amour avec toi. Oh, 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 oh. Ceux-là le font, mais ne le disent pas. Moi, c'est un rêve, et ce soir, c'est pour ça que moi, je veux faire l'amour avec toi. Que moi, je veux faire l'amour avec toi. Oh, 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 oh.